Radio Campus, il est 18h.
Heureusement qu'en France, on ne se drogue pas.
L'agitation règne dans les studios de Radio Campus Lille. Après avoir échappé à la redoutable 501e Légion, un groupe d'académiciens du sabre laser Solaris et Ténébris mené par Anne Macaré a établi une nouvelle base secrète sur Villeneuve d'Ascq. Dark Reynald, le maléfique, hanté par l'idée de retrouver le maître Jedi Dominique, lance des centaines de drones et robots chercheurs spot aux confins de Campus, la cité scientifique. Poursuivi par Laurent Fichter, du point de Vador de l'Empire, le prince François file dans son vaisseau SpaceX, porteur des plans volés d'une antenne qui pourront sauver ses auditeurs et restaurer la bande FM dans la galaxie. Vous êtes bien sûr dans l'émission Heureusement en France. Et aujourd'hui, nous allons parler, forcément...
de Star Trek.
Nous sommes trois pour aller cette émission. Il y a moi-même François, je suis accompagné de Reynald.
Dark Reynald, s'il te plaît.
Dark Reynald. Bonsoir à tous. Maître Jedi Dominique.
Salut tout le monde.
Et nous avons deux invités autour de la table pour parler... Alors, c'est suite... au 4 mai, un May the Force be with you, et puis aussi parce qu'on vous a croisé dans de nombreux événements geeks dans la région. Nous avons donc Anne Macaré, gardienne de l'ordre Solaris et Ténébris pour l'Académie de sabre laser Solaris et Ténébris.
Bonjour.
Et Laurent Fichter, le coordinateur régional de la 500... alors... 501st...
Legion First,
501st Legion French Garrison. Bienvenue.
Tu sais, maintenant les auditeurs vont attendre que tu fasses ça à chaque émission.
Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas ce que tu prends pour faire ce genre d'intro, mais fais tourner la prochaine fois.
Hein. Alors, nous avons une tradition dans cette émission, et notamment lorsque nous avons des invités, c'est de leur demander un peu leur parcours. Alors ici, vous êtes tous les deux, c'est une association. C'est bien ça. Lié, bien sûr, à l'univers de Star Wars, on va la détailler en long et en large pour chacune de vos associations. Et peut-être, Anne Macaré, tu pourrais ouvrir en nous expliquant un peu comment tu en es venue dans cet univers Star Wars. Comment est-ce que tu as connu Star Wars? Ça peut paraître basique comme question et assez évident, mais peut-être qu'on aura des surprises. Et également, comment est-ce que tu as rejoint cette association?
Star Wars est présent dans de nombreux univers, soit la littérature, les jeux vidéo, les films. Donc effectivement, on peut découvrir cette galaxie de différentes manières. Moi, c'était des livres. Quand j'étais au lycée, c'est une de mes amies qui était fan de Star Wars qui m'a fait découvrir les romans. Et je les ai lus les uns après les autres. Et après, j'ai découvert les films. Et après, j'ai découvert les jeux. Et puis, j'en suis venue à faire du jeu de rôle. Et j'en suis venue à vouloir m'investir dans cet univers, à vouloir vraiment m'y plonger. Et j'ai découvert qu'il y avait une académie de sabre laser à Fâche-Tuménil. Ça tombait bien. Moi, je venais de l'escrime artistique, j'avais fait de la rapière. Et déjà, à l'époque, ça m'avait bien intéressé, le sabre laser. Donc, je me suis lancée dans l'aventure. Et là, ça fait 3 ans, donc j'ai intégré Solaris et Ténébris.
Alors, on parle de jeux de rôle Star Wars, Dominique.
Ouais, on en a fait un petit peu, nous aussi.
La version 2.6.
C'est ça, mais...
Alors, moi, j'ai fait de la version forum. Ouais. Sur internet et la version online aussi sur Star Wars Vieille République.
Alors on avait testé la version forum. Le problème, c'est que en attendant que les gens répondent, ça peut être des fois très long.
Oui.
C'est... Bah, le truc, c'est d'avoir plusieurs personnages, on est complètement schizophrène.
Ça permet le rôle, par contre, et c'est ça. Et
puis, on passe de l'un à l'autre.
Et il y a les jeux de rôle, les MMO. Le tout premier, c'était Star Wars Galaxy, un des tout premiers jeux de rôle en ligne. Et puis, effectivement, Star Wars The Old Republic, qui existe toujours, auquel on peut jouer, je pense, gratuitement.
Fait, bien sûr.
Et qui vraiment tient toujours la route, c'est très impressionnant.
Il est toujours là, il est toujours alimenté en contenu, la communauté roleplay est toujours présente, et j'y pense encore du bon moment.
Laurent Fichter, toi tu fais partie donc de la Légion, la 501e Légion, on peut dire en français ?
Ouais, on peut dire la 501e Légion, ouais, ouais, ouais.
Also known as le Point de Vador, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Alors, toi c'est pareil, un peu, quel est ton parcours et qu'est-ce qui t'a fait rejoindre la Légion ? Et d'abord, comment as-tu connu Star Wars ?
Alors, ben moi, je suis tombé dedans un petit peu par hasard quand j'étais petit, un peu comme Obélix dans la marmite de potions magiques. Je suis tombé sur une diffusion d'une cassette VHS en version originale chez des amis de mes parents. C'était la fin du retour du Jedi. Alors, j'ai absolument rien compris à ce qui se passait, mais visuellement, ça avait l'air vraiment trop génial. Le duel au sabre laser, ça m'a tout de suite parlé. Et puis un petit peu plus tard, il y a un de mes camarades de classe qui me dit « Mais t'as jamais vu Star Wars ? Mais attends, c'est pas possible, il faut que tu vois ça. » J'ai dit « Bah oui, mais je les ai pas. » Moi, oui. On a enquillé la trilogie comme ça. Donc j'avais entre 8 et 9 ans. Et derrière, ça ne m'a plus jamais quitté. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, avec mes parents, on vivait à l'étranger, dans des pays où on ne recevait pas la télé française. En tout cas, sans payer un abonnement au satellite hors de prix. Et donc en fait, on regardait des VHS, souvent des films qui étaient enregistrés par des collègues de mon père en France. Et donc, les films que j'ai vus, en général, je les ai vus un très grand nombre de fois. Et donc, Star Wars, la trilogie originale, je les ai vus, je pense, au minimum 80 fois chacun à l'époque.
C'est loin du record du monde, hein. Je sais qu'il y a des fous qui...
C'est loin du record du monde, mais ça occupe.
Mais c'est vrai qu'à 8-9 ans, tu vois ça, oui, les sabres laser, les combats dans l'espace, quel que soit l'univers, quoi, il y a d'autres univers de science-fiction, ça te marque, je pense.
Ouais.
Définitivement. Tu n'en donnes pas à nous ?
Mais oui, Dominique, comment tu connais Star Wars ?
Mais moi, c'est tout bête parce que moi, j'en avais entendu parler, quoi. Mais je crois que c'était dans le magazine Téléstar. Ils publiaient des feuilletons de temps en temps. Et je ne sais pas pourquoi, une fois, ils ont publié Le Retour du Jedi, format roman photo, quoi, avec les noms transformés des robots et tout. Je ne comprenais rien. Et mon frère me dit, ça t'intéresse ? Bon, on va le voir au cinéma. Donc moi, j'ai commencé par Le Retour du Jedi. Et, c'est pareil, quoi. Je ne suis pas devenu fan absolu parce que j'aimais plein de choses, j'étais passionné par plein de choses, mais c'est comme ça que moi je suis tombé dans Star Wars. Donc j'ai vu Le Retour du Jedi, puis j'ai revu les autres plus tard, bien sûr, à la télé.
Mais c'est ça, est-ce que les gens, parce que beaucoup de jeunes maintenant sont également plongés dans l'univers Star Wars, mais peut-être pas de la même façon que nous on a pu l'être.
Il y a un truc tout bête, c'est que maintenant Star Wars c'est Disney. Et donc, les plus jeunes ont peut-être sans doute plus... Enfin, il y avait déjà joué à l'époque, mais on ne les trouvait pas partout, c'est pas pareil. Tandis que maintenant, voilà, Disney, la force de marketing de Disney fait que même les bébés, tu peux les habiller en Star Wars, ils sont déjà familiarisés avec.
Avant, t'avais, par exemple, j'ai trollé un petit peu en début d'émission, mais avant, t'avais Star Wars et Star Trek, pour des, on va dire, le côté geek. Mais maintenant, tu as Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Star Trek toujours. Ce qui fait que les jeunes de maintenant sont ouverts à ces... ces péplums scientifiques, et là, ils agrégissent ça beaucoup plus rapide que nous.
Alors, on va détailler en plus, parce que tu jettes déjà la patate Disney au milieu de la table.
J'ai essayé de récupérer le truc, mais ça n'a pas marché.
Je pensais qu'on allait attendre un peu. On va tout d'abord faire un petit overview des deux associations. Alors, je vous ai rencontré notamment à Quesnoy-sur-Deûle, où chacun d'entre vous était à l'entrée dans un stand dédié à Star Wars en cosplay. Alors il y avait l'Empire, alors il y avait les rebelles. Alors est-ce que tu peux, parce que je voulais inviter tout le monde et apparemment dans la communication j'ai raté une association. Je m'en excuse, ils viendront dès qu'ils veulent dans l'émission, ça sera possible. C'était la Rebelle...
La Rebelle Légion, oui. Donc, en fait, nous, à la 501e, on est une association qui est née il y a 25 ans maintenant aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui s'appelle Albin Johnson qui avait créé ça, parce qu'à l'époque, il avait envie de se costumer en Stormtrooper. Et donc, quand il y a eu les éditions spéciales de la trilogie originale qui sont sorties, et puis les épisodes 1, 2, 3, lui, en fait, avec des amis, se sont costumés en Stormtrooper. Et c'est comme ça que la 501e Légion est née et a grandi depuis les États-Unis. Et donc, nous, le principe de base, c'est qu'on est une association de cosplay uniquement Star Wars, et même plus précisément, on ne fait que les méchants de l'univers Star Wars.
C'est un point de vue, ça, les méchants. C'est une question de point de vue, savoir s'ils sont méchants ou pas.
Oui, voilà. C'est, disons que certains vous diront que c'est les représentants de la loi et de l'ordre. Et que les rebelles en face sont de vilains terroristes. Mais bon. Et donc, en fait, on a une association jumelle qui est la Rebelle Légion. Donc, on a globalement, on a exactement les mêmes statuts d'un point de vue et la même organisation d'un point de vue mondial, sauf qu'eux ne font que les gentils de l'univers Star Wars.
La même exigence au niveau de la précision des costumes et de l'histoire, et du respect de l'univers, bien sûr.
Tout à fait. Alors, effectivement, tu parles d'exigence. Il faut savoir que pour rentrer dans ces deux associations, la condition sine qua non, c'est d'avoir un costume complet. Et ce costume doit passer par une étape de validation, par un comité qui homologue le fait que le costume est conforme à ce qui est visible à l'écran. Voilà, donc globalement, quand on est sur un costume issu d'un film, ce qu'on peut voir, ce qu'on porte sur nous est très très proche, voire complètement identique à ce qui est utilisé et visible dans les films.
C'est très impressionnant parce que je me souviens qu'au tout début, effectivement, il y a des gens qui venaient au cinéma dans les premières séances, ils avaient des costumes faits, c'était des bouts de polystyrène ou des sacs. Ça rendait déjà bien visuellement, on voyait qu'ils étaient éclatés. Mais c'est vrai que maintenant, avec l'évolution des technologies et surtout dans le cosplay, les nouveaux matériaux, je ne parle même pas des imprimantes 3D, etc., on est capable de faire presque mieux à la limite que ce qui avait été fait comme props par Lucas à l'époque dans le premier film, j'ai envie de dire. Un amateur a presque plus de capacité technique que les ingénieurs, les techniciens de cinéma de l'époque.
Alors oui, sur le principe, il y aurait plus de capacité technique et peut-être moyen de faire des choses entre guillemets plus propres, hein, parce que finalement une partie de la magie du cinéma c'est finalement d'arriver à nous faire croire qu'un truc qui est très approximatif en termes de rendu, quand il passe vite à l'écran, c'est quelque chose de waouh, super bien fini, alors que c'est pas du tout le cas. Nous, du coup, clairement, nos armures, par exemple, vous prenez une armure de Stormtrooper, finalement, dans la vérification du costume, on exige quasiment de nous d'avoir des défauts similaires à ceux qui sont visibles à l'écran. Je prends un exemple tout bête. Le casque de Stormtrooper, il est pas symétrique du tout. Le casque de mon armure de Stormtrooper n'est pas symétrique, de la même façon que celui qu'on peut voir dans le film.
Et est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une porte qui se baisse, tu es obligé de te la prendre
Ça j'évite parce que ça fait mal, ça fait bouger le casque, et puis... S'il faut le remplacer à chaque fois.
J'ai une question, du coup, ça peut, pour les auditeurs qui découvrent, etc., qui pourraient être intéressés à venir, à la limite, ça peut leur faire un petit peu peur s'ils sont obligés. Mais c'est que quelqu'un qui s'y connaît, qui est fan de Star Wars, moi aussi ça m'intéresse, mais pour entrer, si je dois déjà avoir mon costume tout prêt, comment il fait? Est-ce qu'il va avoir une autre association qui,
Alors, bah non, en fait, on a un forum, alors on a même plusieurs forums. Il y a le forum de la 501e au niveau mondial, qui est un forum entièrement en anglais, parce que c'est notre centre névralgique, il est aux États-Unis. Et puis, c'est la langue, du coup, dans laquelle. Tout le monde se retrouve à peu près, hein, parce qu'on est aujourd'hui on est entre 13 000 et 15 000 membres actifs dans le monde. Donc voilà. Et puis après, au niveau de la garnison française, on a un forum à nous sur lequel là on échange en français. Et sur ce forum, il y a toute une partie qui est dédiée justement aux échanges autour des costumes, comment arriver à faire ou à se procurer telle ou telle pièce. Voilà, donc chacun échange justement sur ces tips, ces bonnes adresses ou ce genre de choses.
Et c'est du cosplay, c'est pas du déguisement. Donc si vous allez dans un magasin où vous achetez votre tenue de Darth Vader, cela ne fonctionne pas. Il faut que vous ayez participé vous-même à l'élaboration
sur AliExpress aussi.
Alors, participer nous-mêmes, à la limite, ça c'est accessoire. Ce qu'il faut, c'est que le rendu, ouais, il soit identique à ce qu'on voit dans les films. Voilà. Donc
de toute façon, même avant même de passer par un forum, si ça fait peur aux gens, on vous demandera tout à l'heure des dates où on peut vous rencontrer. Mais c'est vrai que sur les salons, la semaine prochaine, il y a le Geek Days, par exemple. Mais dans toute la France, régulièrement, il y a des salons liés au fantastique, à la science-fiction, ou à tous ces univers, et souvent vous êtes présent dessus, vous d'autres. Et donc le meilleur moyen, il ne faut pas hésiter à aller voir ces gens, à leur poser des questions, à leur parler, et à poser en photo avec.
Tout à fait, d'ailleurs c'est aussi en partie pour ça qu'on fait les salons, hein. Nous en tout cas 501e, c'est un, pour faire vivre la passion qu'on a autour de Star Wars, et deux, c'est aussi pour se faire connaître et arriver à recruter de nouveaux membres, même si on est bien conscient que le ticket d'entrée, entre guillemets, est justement... la marche est un petit peu haute, en tout cas pour se lancer tout seul dans l'aventure.
Mais un passionné ne sera pas laissé tout seul. Il peut contacter l'association. Voilà. Il y a même des vidéos sur YouTube, justement, de l'association, alors cette fois-ci américaine, qui explique, qui dit, voilà, nous, on est tous passés par la création du costume, on a tous... commis certaines erreurs, on va justement vous montrer, vous accompagner pour vous faciliter la tâche à rejoindre l'association et pouvoir participer aux événements.
Tout à fait, tout à fait. Là encore, cette semaine, c'était quand? C'était avant-hier soir, avec un des petits camarades, on buvait un coup la suite, justement, avec l'équipe du festival de Quesnoy sur Deûle. Et il y a l'un d'entre eux, en fait, quand il nous a vus, il s'est dit c'est pas possible, il faut que je vous rejoigne, mais je sais pas encore par quoi commencer, comment m'y prendre. On lui a donné plein de conseils, on a échangé avec lui sur le costume, le ou les costumes qu'il visait. Et puis voilà, enfin, on lui a montré plein d'adresses de personnes qui pouvaient lui procurer un certain nombre d'éléments, parce que fabriquer des pièces métalliques, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir un petit peu d'outillage et de matériel pour ça. Donc on a des gens au sein de l'association qui fabriquent ça et qui fournissent, qui ont des boutiques sur Etsy ou des choses comme ça, et auprès de qui on se fournit pour des choses assez particulières.
Et complexes. Alors, juste avant d'attaquer cette fois-ci l'Académie des Sabres Laser, je vous propose d'écouter un peu de musique lié à l'univers, forcément, de Star Wars.
Ayam ?
Hein ?
Non, tellement.
Mais je ne l'ai pas mis Ayam, je me suis dit, on l'a déjà tous écouté. Je vous propose un peu de Tenacious D avec la chanson qui s'appelle Death Star. Voilà, ça fait toujours plaisir, un peu de Jack Black.
sa peau t'a plu. Is fucking turning to shit. The earth don't stand a chance. Hurricane, typhoon will destroy the city. We got to clean up the skies and recycle. We got to stop the overpopulation. But most important of all, we got to build a Death Star. Death Star, it's a fucking ship. It's a son of a bitch, y'all, and we're building it. It's gonna take us up into the sky. We don't need the earth, we're gonna fucking fly sky high. Death Star, it's a son of a bitch, y'all. Gonna take us into outer space. Get your shit together, motherfucker. We're gonna start a new human race in the sky. In the sky. You know we will be rocking on the Death Star. Total eclipse of the sky. Everybody going insane. Futuristic video games. Everybody have a good time. Synthesizing water and wine. But how? How? I hired a nerd. A fucking paid a nerd. It is absurd, but I paid him to build it. I don't know how to build that shit. That's right. There's a vacuum in space. We'll fucking suck your face. Day or night, you gotta make it airtight. You gotta build that shit, make it out of sight. The fucking Death Star. You know we will be rocking on the Death Star. We will be democratic on the Death Star. There will be lots of boning on the star. Stars. We got to spread out far. Seven strong, we got to bang a gong. But baby, hold up, and now there's something wrong. What's that? That's a fucking squid. An evil alien squid. Join up ships, we got to let it rip. We got to blow that bitch to another dimension. Death Star! We got to build a hundred of them. Death Star! We spread across the galaxy the Death Star!
Jessica Doe. But the question arises, my friend, what have we become?
Death Star! Tenacious D sur les ondes de Radio Campus 106,6 FM et dans l'émission Heureusement en France. On continue sur cette lignée. Dans l'univers de Star Wars, on parcourt la galaxie. On vient de parler un peu de l'association de la 501e Légion, The French Garrison. Et on va maintenant explorer un peu l'univers de l'Académie de Sabre Laser Solaris et Ténébris grâce à Anne Macaré. Alors, un peu dans le même esprit où vous allez participer à certaines conventions avec du cosplay, il y a une petite couche en plus où il y aura la technique du sabre laser.
Alors, contrairement à la 501, on ne va pas être une association cosplay. On est la branche sabre laser d'un club d'escrime sportif, le club des escrimeurs de Fâche-Tuménil. Et effectivement, donc nous, notre objectif, d'abord, c'est la technique de sabre laser pour présenter des chorégraphies de combat. On ne fait pas de combat sportif, on ne fait que de la chorégraphie. Et ensuite, donc pour s'immerger dans l'univers, on crée nos propres costumes inspirés de l'univers Star Wars. Donc il n'y a pas de costume à validation. On a un temps en début, quand on s'inscrit, on a du temps pour créer son costume. On a des personnes qui savent coudre, qui savent créer toutes sortes de pièces pour pouvoir aider les personnes qui arrivent. Et l'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible, évidemment, en event, sur scène, pour pouvoir présenter des spectacles.
D'autant qu'un costume qui serait très réaliste, qui serait très représentatif de ce qu'on voit à l'écran, comme tu le disais tout à l'heure, n'est pas forcément pratique pour combattre.
Tout à fait. Il y a des costumes qui ne sont pas pratiques du tout, qui sont beaux à voir, mais au niveau de la sécurité, au niveau aussi de la présentation, qui ne sont pas du tout adaptés à la pratique du sabre laser.
Ouais, tu veux dire que tu ne fais pas de triple saut périlleux arrière avec un sabre laser ?
C'est prévu pour l'année prochaine, mais pour le moment, non.
En tenue de Stormtrooper ?
En tenue de Stormtrooper, tout à fait.
Que c'est intéressant cette évolution du combat de sabre laser, parce qu'au tout début, les gens fabriquaient eux-mêmes leur sabre, peut-être pas très précisément, et maintenant les procédés de fabrication ont augmenté, on peut en trouver, même on peut en commander facilement des choses qui sont très réalistes, c'est pas des vrais sabres laser encore, mais avec lesquels en plus on peut se battre, parce que c'est vrai que les premiers, tu donnais deux coups, ça se cassait, etc. Et il y a une évolution, effectivement, comme tu précisais, maintenant, le combat de sabre laser fait partie, a été adopté ou adoubé par l'association d'escrime, ça fait pas si longtemps que ça.
Ça a été reconnu en 2019. C'est vraiment très récent, les premiers sabres laser de combat datent de 2015.
C'est vraiment un... Oui, est-ce que c'est un sport reconnu ? Alors, c'est pas encore aux Jeux Olympiques, on ne sait pas, quoi, mais pourquoi pas ?
Encore, on croise les doigts.
Avec les moyens de Disney, on verra.
Ça a été reconnu parce que l'escrime...
En fait, on savait pas
un sport, certes intéressant, mais qui a du mal aussi, pense, peut-être à recruter. Et ça a peut-être donné, justement, un nouvel élan qui a permis à des gens qui venaient peut-être pour le sabre laser de aussi reprendre une initiation de l'escrime. Pour eux, c'était peut-être un double enjeu à ce niveau-là.
Ça peut être une découverte ou une redécouverte de l'escrime. Maintenant, le sabre laser est quand même une discipline à part entière, parce que même si on s'apparente à de l'escrime, c'est quand même des techniques de combat qui sont particulières, qui sont totalement adaptées de l'univers Star Wars, dans la progression et dans les formes de combat. Donc, c'est, même si on ne connaît pas l'escrime, effectivement, ça peut amener à s'intéresser à la pratique sportive, mais sont quand même deux concepts différents. Surtout que nous, on ne fait que de la chorégraphie, on ne fait même pas de sport brut.
Donc c'est encore, il existe des compétitions, j'ai vu des concours ou des tournois, je ne sais pas si c'est de la compétition officielle, j'ai vu des reportages où effectivement les gens arrivaient. Et ce qui est très amusant, c'est que j'ai vu des gens danser, se mettre au sabre laser, ils avaient leur costume, mais ils ne s'intéressaient pas du tout à Star Wars, ils ne connaissaient même pas. Eux, ce qui les intéressait, ils ont vu des gens se battre, faire un sport, une activité sportive, le fait que ça soit Star Wars ou autre, ça ne les intéressait pas, quoi. Ils ont vu simplement quelque chose de différent, comme un sport nouveau, quoi.
Non, c'est certain, c'est ouvert à tout, ça reste, voilà, comme on disait, ça reste de l'escrime artistique, ça reste un sport qui est ouvert à tous, et on n'a pas de prérequis en termes de connaissances de Star Wars. Maintenant, c'est certain que le sabre laser, c'est quand même particulier, ça va attirer davantage les fans de Star Wars, mais c'est ouvert à tous.
Et puis j'ai vu des... Alors au début, on s'inspirait des films, on essayait de recopier les chorégraphies des films, reconstituer les scènes, qui sont pas toujours forcément faciles, hein, parce qu'au moment où elles étaient conçues, bon, il y avait beaucoup de montage quand tu fais une scène de combat.
Puis t'as des doubleurs cascadeurs aussi.
Il y avait les cascadeurs.
Avec des fils.
Avec des images de synthèse, etc. Et de plus en plus, il y a même des gens qui ont inventé, je crois, des techniques ou des coups ou des parades, en s'inspirant toujours pour que ça soit cohérent avec la pratique. Ils ont découvert eux-mêmes qu'un sabre laser, ça, tu te tiens d'une certaine façon, que tu le tiens à deux mains ou une main, voire deux sabres, je sais pas si on qui se battent avec deux sabres laser ou des doubles sabres laser, si. Ça devient compliqué, ou voire deux doubles sabres laser si on a quatre bras, mais je sais plus, mais effectivement, ils ont dû, et comme ils trouvaient pas des choses dans les films ou dans les séries ou dans les livres, ils ont dû inventer leur propre technique, je pense. Enfin,
les armes, on a les sabres simples avec les formes de combat qui sont éditées entre guillemets dans l'univers Star Wars. Le shisho pour les apprentis, le makashi c'est la forme du comte Doku qui est très droite, très noble, le so au réseau, qui est plus la forme de Qui-Gon Jinn ou d'Obi-Wan. Et puis on va avoir les personnes qui se battent avec deux sabres, c'est l'ambidextrie qu'on retrouve par exemple dans Clone Wars avec Ahsoka Tano, les doubles sabres avec Dark Maul, donc c'est vraiment deux sabres assemblés par le pommeau pour... On peut trouver. Après, de toute façon, Star Wars, c'est une évolution constante. Donc forcément, les fans vont aller chercher à dépasser, à créer de nouvelles armes, de nouvelles formes, autant que Disney eux-mêmes le font. Hein. Le sabre laser de Kylo Ren, par exemple, avec les lasers sur les côtés, ça n'existait pas avant, ils l'ont inventé, bon ok, voilà. Et maintenant, ça existe.
Il y a des gens qui l'ont fait. Non, il est peut-être plus difficile à
réaliser. Ça s'appelle juste le pommeau d'une épée. Hein. C'était juste pompé sur l'épée médiévale de base et ça fait waouh, vous avez des lumières. C'est une épée médiévale pimpée, tu vois.
Comment descendre. Les scénaristes qui étaient tout contents de sortir ça en design.
Moi, je suis pas sûr de sortir vivant du studio, mais je m'en fous, je m'amuse.
Je suis pas venu armé, ça va.
Mais justement, on parlait de l'escrime par rapport au sabre. Qui est comme on disait, le reflet d'une épée. Mais comme on parle du double sabre de Dark Maul, est-ce que là, vous allez plus travailler sur les techniques du bow, du bâton. Ou essayer de continuer sur l'escrime
en s'inspirant des arts martiaux asiatiques tels qu'on les connaît, peut-être.
Il y a les deux, forcément. Alors, en escrime sportive, on n'a pas l'équivalent du double sabre. Hein. Ouais, ça viendra peut-être après, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais de toute façon, Star Wars, c'est un univers qui est beaucoup inspiré du passé, des mythologies, du médiéval, etc. Déjà à la base. Donc, oui, bien sûr, quand on crée une forme de combat, quand on commence à chercher comment utiliser son arme, on va aller chercher des inspirations et on va créer nos propres formes.
Une base de connaissances qui est déjà connue.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais après, c'est la culture générale de chacun aussi. Chacun va aller chercher là où il veut les inspirations, que ce soit au niveau de son arme, de sa forme de combat, puisque on a les formes de Star Wars qui sont étudiées dans les premières années. Puis par la suite, au niveau de Solaris et de Ténébris, on va chercher justement à créer sa forme de combat. Donc on va aller chercher l'inspiration, que ce soit dans Star Wars ou dans d'autres univers, pour imaginer son propre personnage et son propre style.
Alors, comment est-ce qu'on rejoint l'académie ? Est-ce qu'il y a un âge minimum ?
Alors, actuellement, l'académie, on a deux pôles. On a un premier pôle qui est le pôle adulte, donc qui est accessible à partir de 16 ans. Les cours, c'est le vendredi soir. Donc, pour venir, tout simplement, il faut s'inscrire. C'est la saison sportive en septembre. Et on a également une école, Solaris et Ténébris, depuis cette année, qui est accessible à partir de 9 ans, qui a ses propres cours le lundi. Et pareil, c'est la rentrée sportive. S'inscrire, il n'y a pas de prérequis, il n'y a aucun prérequis. Qui veut nous rejoindre le peut. Et ensuite, c'est au fil de l'année qu'on va demander, notamment pour les adultes, le costume, qu'on va demander la présence en event. Et puis, en fin d'année, on a un passage de grade pour passer sur l'année suivante.
Un petit peu comme les ceintures.
Voilà. Et justement, est-ce que, comme nous a signalé un auditeur sur un de nos réseaux sociaux, est-ce que ça doit faire comme un Jedi ? Est-ce qu'on doit construire soi-même son propre sabre pour pouvoir... Merci Pierre-Yves pour la remarque.
Déjà, quand on arrive à Solaris et Ténébris en première année, on ne peut pas avoir son propre sabre laser. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, on peut l'avoir. Alors, ceux qui veulent construire leur propre sabre le peuvent. Du moment que ça fonctionne, que la technique le veut, on en a qui ont créé leur propre sabre. Sinon, effectivement, on peut en trouver dans différentes boutiques, notamment sur Internet, que ce soit en France ou aux États-Unis, qui sont construits et préparés pour le combat.
Ok. On parle d'événements. Un événement qui aura lieu le week-end prochain, c'est les Geek Days, donc du 14 au 15 mai, un des plus gros événements geek de la région, où on va pouvoir retrouver l'académie. Vous allez donc faire des petites démonstrations, c'est bien ça ?
Tout à fait. On aura un stand avec de nombreux points photos, et on aura des passages sur scène avec des démonstrations de combat.
Et donc les visiteurs pourront eux-mêmes s'entraîner, se tester éventuellement.
Alors, on ne pourra pas faire d'initiation, on n'aura pas la place pour ça, mais ils pourront venir nous rencontrer, faire des photos, même avec les sabres laser, et nous voir sur scène.
Et avec une grande déception, on n'aura pas la 501. Est-ce qu'il y a d'autres événements où on pourra vous voir prochainement ?
Alors, prochainement, ça va se faire au fil de l'eau. Le prochain gros événement dans la région où on est attendu, ce sera Star Wars, donc qui est un salon qui a lieu plutôt tous les deux ans à Boulogne-sur-Mer. Donc voilà, et qui aura lieu cette année mi-novembre de mémoire.
12 et 13, 11, 12, 13.
Les 11, 12 et 13 novembre à Boulogne-sur-Mer.
Voilà, donc là, normalement, vous pourrez venir nous rencontrer. Et puis sinon, pour les chanceux qui habitent près de Valenciennes et qui font leurs courses dans un grand hypermarché d'une enseigne régionale, ils ont pu nous voir mercredi pour May the Force et les 50 ans du magasin en question. Voilà, où on était présent.
Alors, la 501, oui. C'est vrai que tous vos événements sont associatifs, donc c'est du bénévolat, mais il y a également beaucoup de caritatifs également, puisque je vois, lorsqu'on se rend donc, sur votre site Facebook, donc vous tapez 501 Légion French Garrison, et on peut voir notamment que vous rendez aussi dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'événements de ce type.
Tout à fait. Alors en fait, nous, on assure finalement trois types d'événements. Alors le premier type, on en a pas mal parlé jusqu'à présent, c'est finalement notre présence sur les salons, qui nous sert, je dirais, à faire vivre la passion de Star Wars, à rencontrer le public, à donner envie aux gens de nous rejoindre. Mais sinon, la vocation de l'association, c'est effectivement de faire du caritatif, en particulier à destination des enfants hospitalisés. D'accord ? Donc, finalement, pour ça, on a le deuxième type de sortie, entre guillemets, qu'on effectue, c'est d'aller voir pendant une journée les enfants dans les services pédiatriques des différents hôpitaux de France et de Navarre. En général, on essaye de se déplacer entre 5 et 10 costumés. Et puis, on passe de chambre en chambre. Alors, quand on le peut, on amène également des cadeaux pour les enfants. Et puis voilà, enfin, on fait des photos avec eux, on fait des photos aussi avec le personnel soignant qui sont toujours surpris et contents de nous voir
et qui ont besoin de soutien aussi
et finalement je pense que ça sort un petit peu tout le monde de son quotidien. En tout cas, c'est une petite parenthèse pour chacun de quelques minutes où ils peuvent se dire aujourd'hui il s'est passé quelque chose de différent, quelque chose de sympa finalement, parce qu'en général quand on est à l'hôpital c'est quand même rarement une bonne nouvelle. Voilà. Et puis sinon la troisième forme de prestations qu'on fait sont des prestations à caractère commercial, entre guillemets, c'est-à-dire que on va aller animer généralement des magasins, bien souvent des enseignes de jouets, hein, qui nous sollicitent pour faire une animation. Et en fait, dans ce cadre-là, l'association établit un devis et rémunéré. Donc, sachant que les membres, eux, sont tous bénévoles. Donc, cet argent qu'on capte grâce à ces prestations, en fait, on le redirige derrière vers des associations ou des hôpitaux qui ont un service pédiatrique ou qui s'occupent en tout cas des enfants hospitalisés au quotidien. Voilà, donc ça nous sert finalement à canaliser ces moyens financiers et à les redistribuer. La particularité de la 501e Légion et de notre association jumelle, donc dont je parlais tout à l'heure, la Rebelle Légion, c'est que on a l'approbation de Disney et Lucasfilm pour utiliser la licence Star Wars, donc à titre gracieux, à condition justement que ça nous serve à faire du caritatif. Donc ça veut dire que finalement, on le fait dans un cadre qui est complètement clair. On a le droit de se faire rémunérer, contrairement aux autres associations en réalité.
On s'aperçoit que Dark Vador, en fait, il est gentil.
C'est ce que je me disais, tu vois, t'as l'enfant qui est en train de subir un séjour à l'hôpital et il voit arriver plein de méchants, parce que c'est quand même une association de costumés de méchants de Star Wars, qui rentre dans sa chambre, il se dit mais qu'est-ce que j'ai encore fait, qu'est-ce que je vais subir.
En tout cas, que ce soit pour la 500 ou pour l'académie, pour avoir été notamment dans des salons où j'ai pu vous rencontrer, c'est vrai que c'est franchement impressionnant de voir votre disponibilité pour les gens, pour faire des photos. Ça demande quand même, alors pour ceux qui sont en costume notamment, beaucoup d'efforts, je pense, de rester toute la journée comme ça, être disponible, prendre des photos. Un coup de chapeau pour vos deux associations, en tout cas à ce niveau-là.
On va rappeler, effectivement, pour avoir plus d'informations, voilà, si on cherche 501 French Legion, on doit pouvoir vous trouver sur Facebook. Solaris et Ténébris, c'est un peu plus simple au niveau de l'adresse. Et c'est pareil, on voit des photos, on voit vos événements. Enfin, c'est, je pense que c'est le premier point de contact, c'est assez facile.
On refait une petite pause musicale avec le groupe Nerf Herder. C'est ceux qui ont fait le générique de Buffy contre les vampires.
Ça nous rajeunit pas, enfin.
Et la chanson s'appelle I'm the Droid You're Looking For. The droid you're looking for. Nous sommes toujours en compagnie de Anne Macaré et Laurent Fichter pour parler de leur projet et association, l'Académie de Sabre Laser Solaris et Ténébris. C'est la 501e Légion, also known as 501 Légion French Garrison. J'y arriverai un jour, hein, ça vient.
501.
Et une petite pensée pour la Rebelle Légion qui rejoint cette fois-ci le côté clair. Alors, je vous ai préparé une sorte de petit quiz pour un peu explorer ensemble l'univers de Star Wars. Il y aura également quelques petites musiques. Alors, je dis ça en même temps où le rien n'est chargé, donc on va y arriver. Alors. Déjà, je vais lancer la patate chose. Tout à l'heure, on parlait de la première trilogie. Je pense que
tu veux dire la seule trilogie.
Vous avez tous les deux commencé par l'épisode 4, 5 et 6, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez de la première patte Disney qui a été intégrée? Quel est votre senti? C'est vrai qu'on pourrait, je pense, faire une émission à part juste sur les nouveaux formats qu'apporte Star Wars actuellement. À noter la nouvelle, c'est une série Obi-Wan Kenobi qui arrive très prochainement.
Arrive, à la fin du mois. Ouais.
Est-ce que ce genre de nouveaux épisodes vous enthousiasme ou pas?
Alors, est-ce que ça m'enthousiasme? Ça, je juge sur pièce en fait. C'est-à-dire que Obi-Wan Kenobi, par exemple, hein, puisque c'est l'exemple que tu prends, je ne sais pas. Pas bien ce qu'on va pouvoir raconter encore sur ce personnage.
Est-ce qu'on a besoin de raconter des choses? Parce qu'il y a eu.
C'est bien la question. C'est-à-dire que pour moi, finalement, Obi-Wan Kenobi, tout ce qui reste à raconter, c'est son ermitage dans le désert. Par définition, quand vous êtes ermite dans le désert, vous faites normalement pas grand-chose. Surtout quand vous êtes là justement pour disparaître aux yeux du monde. Voilà, donc il y a des paris qui sont lancés, entre guillemets, pour se dire que cette série s'appelle Obi-Wan Kenobi, mais que finalement, ça ne va pas forcément tourner en permanence autour de Obi-Wan Kenobi, mais que ça va nous faire découvrir d'autres choses qui se sont passées pendant ce temps-là, des choses qui vont s'être passées probablement après la fin de la série Rebels, qui était une série d'animation. Puisqu'il y a encore, après la fin de cette série, il y a encore quelques années d'histoire à combler avant le début de l'épisode 4.
C'est vrai qu'on malgré avait la quantité de matériel qu'il y a, les films, les séries, les bouquins, etc., les jeux vidéo qui portent aussi, il y a encore des zones d'ombre dans l'univers Star Wars, mais c'est ça qui fait le plaisir. Il y a eu la polémique avec Solo et même plus récemment Boba Fett, parce que ce qui fait plaisir dans ce qui nous fait aimer ces personnages, c'est que justement, ils ont un passé mystérieux. On ne sait pas d'où ils viennent. Il y a des choses cachées. Et le fait de tout nous dévoiler, il y a des gens qui se sont dit bah, « j'avais peut-être pas envie de savoir enfin, ». Ça mais cache un peu, c'est compliqué.
Il y a le souci, c'est que tout ce qu'il y a autour des films, notamment au niveau de certains personnages, a été écrit et a été, entre guillemets, renié. C'est ce qu'on appelait désormais l'univers légende. Donc, des informations, on en a déjà beaucoup. Et Disney a choisi de ne pas en tenir compte, mais dans un certain sens, de s'en inspirer. Donc, il y a aussi ce va-et-vient un peu entre ce qui est fait, ce que ça devient, qui plaît pas forcément toujours aux fans. Après, pour revenir sur les nouveaux formats, l'intérêt aussi des mini-séries ou autres, c'est que ça permet de faire découvrir d'autres univers que la saga Skywalker qui est sur les films. Pour ceux justement qui connaissent pas les romans, les jeux, etc., Mandalorian ou Boba Fett permet d'explorer l'univers mandalorien, l'univers de la pègre tatooinienne.
Ça
fait partie de l'univers Star Wars et c'est très sous-exploité dans les films puisque sur grand écran, ça rend moins bien, faut se l'avouer, que sur petit écran, sur Disney+.
Des personnages secondaires ou des races ou des créatures bizarres qu'on voit passer 2-3 secondes dans un film, là on voit qu'ils ont une vie, on voit qu'ils ont une famille ou je ne sais quoi dans les séries, ça permet de s'aller un peu plus, on voit leur habitat, on voit ce qu'ils mangent, ce qu'ils écoutent, comme musique, je sais pas, ça permet de d'augmenter.
Ça permet de faire vivre l'univers
et de voir
un petit peu autre chose. Vendre des jouets, c'est un long débat.
Disney, hein.
C'était déjà la stratégie de Lucas à l'époque.
Parce qu'il a refusé les droits du film pour avoir les droits du
merch. Il a été de mémoire, c'est ça.
Il a dit je ne prends pas les droits du film, vous faites toutes les intrigues que vous voulez, je m'en fous, mais par contre tous les droits des jouets c'est pour moi.
Et
comme c'était l'inverse qui se passait à l'époque, et les producteurs du film ils ont dit bah ouais, t'es couillon mon gars, ok, on y va. Bon, on a vu ce qui s'est passé ensuite.
L'histoire lui a donné raison.
Tout à fait.
Alors, vu qu'on parle d'Obi-Wan Kenobi, ma première question c'est pourquoi est-ce que Obi-Wan Kenobi, dans la première trilogie, ne reconnaît pas R2-D2 et C-3PO? Alors,
c'est une bonne question, je te remercie de l'avoir posée.
On va rentrer dans des débats sur les incohérences entre les différentes trilogies qui peut nous prendre beaucoup de temps.
C'est ça qui est amusant sur les forums de Star Wars où c'est incroyable ce genre de discussion. C'est super passionnant.
Ouais, mais après, c'est des droïdes qui sont sériels, donc peut-être un parmi tant d'autres.
Non, mais sachant qu'il est censé les avoir construits, avoir vécu un certain temps avec eux, il ne montre quasiment aucune.
Moi, j'ai une question encore plus basique que tu n'as pas mis dans ton coin certainement. En anglais, c'est Star Wars. Non. Et en français, c'est la guerre des étoiles. Mais quand tu t'as dit Star Wars, c'est les guerres de l'étoile. Qui a traduit par... Ça m'a toujours amusé.
Je pense la même personne qui a traduit le Millennium Condor.
Et Chitaba.
C'est ce que j'ai mis dans l'annonce de Facebook, heureusement en France. J'ai dit mets les gommes Chico. À quel moment Chewbacca va prendre le nom de Chico?
Alors, C3PO qui devient Z6PO, on ne sait pas pourquoi. Enfin, c'est très amusant.
Bien sûr, cette question n'a pas de réponse, puisque comme tu le dis, c'est de l'incohérence.
Il y a plein de réponses.
Par contre, que veut dire C3PO?
C'est pas le numéro de modèle. Ça veut dire quelque chose?
Ça veut dire Cyborg 3 Protocole. Voilà. Quand a-t-on pu voir la première apparition de Boba Fett?
Dans le Star Wars
Dans le Special, non?
Dans le Special. Le avec voilà. Plein de guillemets et plein de majuscules. Ouais, Christmas Special. En version animée, un court dessin animé.
On peut voir la famille Wookie.
On peut ne pas les voir aussi si on veut. C'est quelque chose qui passait à Noël effectivement dans les années 80 et que même Lucas a
renié pourchassé.
Non seulement il a renié ce truc, mais il a fait rechercher toutes les copies pour les détruire. Quoi.
Il a tenté de le faire disparaître effectivement. En tout cas, c'est ce qui se dit.
Sauf que nous, à chaque Noël.
Mais un petit peu comme les versions d'origine qui sont sorties au cinéma dans les années 70-80, des épisodes 4, 5, 6, c'est des choses qui sont très difficiles à trouver aujourd'hui dans le commerce. Puisque maintenant, ce qui est vendu, ce sont les éditions spéciales, qui ont été modifiées et remodifiées au fil des années, en rajoutant des effets spéciaux, en modifiant, en remplaçant donc l'acteur qui incarnait Anakin Skywalker à la fin de l'épisode 6, on a remis Hayden Christensen à la place, histoire de recréer une incohérence une fois de plus. Pourquoi Obi-Wan Kenobi et Yoda ont un fantôme de la Force qui est vieux et pourquoi Anakin Skywalker est jeune? Enfin, voilà, c'est.
Parce que c'est à ce moment-là qu'il a basculé dans la côté obscur et là où il était bon, c'est à ce moment-là qu'il est revenu bon.
C'est des questions
pragmatiques.
Pas de réponse.
Est-ce que vous savez quel titre en 1977 était premier dans les charts américaines? Qui est lié à l'univers de Star Wars.
Une chanson?
Oui. La cantina? Voilà.
Non.
C'était le thème. Alors, je vais essayer de le passer en même temps. Hein. En vinyle en plus.
Vinyle, wow.
Attention.
Oh là.
C'est tout simplement le thème disco de Star Wars qu'il y a eu à l'époque en 1977.
Il y avait une chanson française aussi pour la sortie du film.
Je suis sûr que dans les boîtes de nuit, ça devait y aller.
Un grand côté kitsch même. Quand on disait ça ne vous rajeunit pas.
Alors ça c'est plus pour la 501e. Qu'est-ce qu'on peut trouver devant le Maz Kanata, le château de Maz Kanata?
Devant le château de Maz Kanata, on a un certain nombre de drapeaux, dont un drapeau qui porte l'emblème de la 501e Légion. Ouais.
Donc en gros, pour remercier un peu les fans, et notamment cette association, est-ce que c'est Disney ou en tout cas les producteurs du film ont mis des références
tout à fait
à votre logo? C'est quand même incroyable ça.
Tout à fait, ouais, c'est entre guillemets la preuve finalement de la reconnaissance de la part de Disney et Lucasfilm de tout ce qu'on peut faire et puis de la qualité de nos sorties, de nos costumes et finalement je pense de la bonne entente qui peut y avoir entre eux et nous. Notamment, on le voit, enfin, à titre d'anecdote, il y a eu des parades chez Disney où, pour avoir beaucoup de monde et donc créer des parades vraiment exceptionnelles en termes d'effectifs, où la 501e Légion est intervenue et donc a défilé avec. Le personnel de Disney qui s'occupe de faire les shows habituellement. Et donc le gros des troupes qui ont défilé, c'était la 501e Légion. Alors... Idem, si vous regardez les deux derniers épisodes de la première saison du Mandalorian, donc la première série qui est sortie sur Disney+, série live action, dans les crédits de fin de ces épisodes, la 501e Légion est citée puisque les troupes de Stormtroopers qui interviennent et qui cernent le Mandalorien et ses acolytes, ce sont des membres de la 501e Légion américaine et britannique qui ont joué dans la série en tant que figurants.
Leur costume était mieux fait que les nôtres, alors on les a appelés, c'était plus simple.
Disons que c'était une façon pour Filoni et Favreau d'avoir beaucoup de Stormtroopers disponibles très vite.
Ah. Pourquoi est-ce que la majorité des Stormtroopers sont gauchers? Est-ce que tu le savais déjà ou...
Alors, j'ai jamais fait attention à ce détail. Je sais pas, c'est peut-être parce qu'ils sont photocopiés comme un manga pour leur mettre dans le bon sens de lecture.
C'est à cause du props, donc avec leur arme, qui est un L2A3 9mm SMG.
Quand on le savait.
Le props était fait pour être gaucher, donc ils ont la majorité le porte de la main gauche. Alors, peut-être là, ce sera plus pour l'association, pour l'académie. Avec quoi est-ce qu'on allume les sabres laser? Avec quoi ils sont alimentés?
Avec la force, tout simplement.
C'est un cristal.
Avec un cristal.
C'est un cristal Kyber.
Ouais, effectivement.
Qui donne la couleur au sabre laser. C'est codifié aussi les couleurs des sabres laser, normalement.
Et Samuel L. Jackson, qui a joué dans Star Wars, qu'est-ce qu'il avait écrit sur son sabre laser? Enfin, sur le pommeau, en tout cas.
Qu'est-ce qu'il avait écrit sur le pommeau?
Alors ça, c'est plus
il a eu son sabre laser, lui, parce qu'il avait réclamé d'ailleurs d'avoir une couleur violette qui n'était pas du tout prévue au programme. Qu'est-ce qu'il a écrit
sur le sabre?
Dans les making-of,
il y avait... académiciens français, ils ont une épée personnalisée. Je crois qu'il y a un académicien qui a demandé un sabre laser, d'ailleurs, je crois.
En fait, il avait écrit dessus « Bad motherfucker ».
Ah bah, c'est sa phrase culte, forcément.
Enchanté.
Voilà, on vous remercie donc Anne Macaré de l'Académie de Sabre Laser Solaris et Ténébris. N'hésitez pas à aller sur Facebook si vous voulez vous initier à la pratique du sabre laser et de l'escrime pour faire de belles chorégraphies et également rejoindre plusieurs événements. Et on te remercie Laurent Fichter pour participer à cette émission en tant que coordinateur régional de la 501e Légion. On espère tous les deux vous revoir dans de prochains événements et je suis sûr qu'on va vous revoir encore et encore. On se retrouve pour notre part la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On se quitte, Dominique, je sais que tu l'attends depuis tout à l'heure, avec The Weird Al Yankovic qui va avoir droit à son film prochainement, puisque c'est Daniel Radcliffe qui va jouer les traits de... Voilà. Avec Soon I'm Gonna Be a Jedi de Saga Begins. À bientôt et merci à vous.
Merci.
Au revoir, merci.
And I thought me and Qui-Gon Jinn could talk the Federation into maybe cutting them a little slack. But their response, it didn't thrill us. They locked the doors and tried to kill us. We escaped from that gas, the Met Jar Jar and Boss Nass. We took a bongo from the scene and we went to feed to see the Queen. We all wound up on Tatooine. That's where we found